Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Vous écoutez Les Grandes Girls, un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes,
pionnières,
engagées,
visionnaires,
audacieuses,
créatives,
insoumises,
singulières,
transgressives,
courageuses,
intrépides,
rebelles,
militantes,
passionnées,
libres,
des héroïnes.
Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes.
Je suis Caroline Lévy.
Je suis Katia Martin.
Les Grandes Girls, saison 9.
C'est parti. Dans ce podcast enregistré en plein confinement, nous ne pouvions pas ne pas en parler car ce mot, qui ne voulait encore rien dire il y a quelques mois, a pris une place importante dans notre vie. Lorsque nous entendons le mot confinement, on ne peut pas s'empêcher évidemment de l'associer à une idée de contrainte, de fermeture, de réclusion. Notre espace de liberté se restreint et pour la plupart d'entre nous, nous en faisons partie. C'est pas du tout facile à vivre. Mais nous ne remettons évidemment nullement en cause le bien fondé de cette mesure, mais elle heurte quand même notre besoin d'aller, de venir à notre guise et de, surtout de prendre nos décisions par nous-mêmes. Obéir à des règles strictes, supporter nos positions frontales à notre liberté, nous demande des efforts, un peu comme s'il s'agissait d'une punition sévère et implacable. Plus de vie sociale, plus de loisirs, plus de consommation, plus de voyages, plus de danse, plus de soirées karaoké, n'est-ce pas Caro ? Bref, c'est la majorité de nos plaisirs que l'on nous enlève momentanément. Nous avions à cœur avec Caroline d'en parler librement et d'aller chercher des réponses pour comment mieux vivre ce confinement, comprendre mieux ce qui se joue en nous, de façon consciente et inconsciente, et trouver peut-être des solutions pour vivre ces moments pénibles de la façon la plus positive et enrichissante possible. Comment se sentir libre et heureux tout en étant privé de liberté et de certains plaisirs? Nous allons poser la question à notre invitée du jour, qui connaît très bien cette situation puisqu'elle a fait le choix de devenir nonne il y a presque 20 ans. Elle va nous en parler. Kankyo Tanié sera avec nous dans quelques instants. Caroline, salut, je te laisse évidemment nous présenter notre invitée et l'appeler. C'est à toi.
On l'appelle tout de suite, c'est vrai. Bonjour Kankyo.
Bonjour.
Alors, Kankyo, on a eu la chance de te rencontrer plusieurs fois et de t'accueillir dans les Grandes Girls. Mm-hmm. Mais cette fois-ci, encore plus que jamais, ta parole, le message que tu délivres et surtout ta vie nous intéressait aussi puisque tu es autrice, conférencière, professeur de chant, hypnothérapeute, pardon, mais surtout tu es nonne bouddhiste de tradition zen depuis près de 20 ans. Tu as aujourd'hui 46 ans et tu as épousé, on va dire, cette voie-là, ce nouveau chemin de spiritualité, il y a près de 20 ans, dans la pratique de la méditation aussi zen, qui se dit zazen. Et tu es actuellement, puisque nous l'avons dit, nous sommes encore confinés, en retraite dans un monastère à Wetterswiller, c'est ça ? En ce moment, Wetterswiller, pardon, à 50 km au nord de Strasbourg. Donc, tu n'as pas pu venir aujourd'hui dans les studios et on t'a par téléphone. Alors, merci déjà de on va dire couper et de nous avoir entre deux méditations et pour pouvoir nous expliquer ton quotidien et pourquoi tu as décidé il y a près de 20 ans de devenir non bouddhiste. Est-ce que Kankyo, tu peux nous expliquer déjà ce qu'est être non bouddhiste?
Alors, non bouddhiste dans la tradition du zen, c'est en fait faire le choix d'une vie plus simple, une vie où avec beaucoup moins de possessions matérielles et une vie qui est centrée sur la pratique de la méditation zen, zazen comme tu l'as rappelé juste avant. Et donc vraiment ça ressemble à nos vies confinées, sauf que on a la capacité ici au monastère d'être dans la nature, on est en pleine nature, ce qui rend les choses plutôt agréables.
Alors, tu as découvert la spiritualité et le bouddhisme à travers des lectures, celle du Dalai Lama, pour ensuite véritablement te rendre compte qu'il fallait que tu te rapproches du bouddhisme. Et tu es tout de suite partie et tu as vécu quelque chose d'assez incroyable dans le centre de la France. Ta première retraite, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'était à l'âge de 26 ans. J'avais terminé mes études, je faisais des petits boulots de ci, de là. Et je ne savais pas trop, j'avais pas encore d'idée claire de ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis donc rendue dans un monastère qui accueillait beaucoup d'étudiants d'ailleurs. C'était un été. Et il y avait 300-400 personnes sur place. Et là, j'ai fait une retraite de 10 jours, très intense, avec beaucoup de méditation. Et cette fois-là, j'ai trouvé dans la pratique vraiment l'idée de rentrer à la maison en fin de retourner à nouveau dans le corps, dans les sensations corporelles, dans la respiration. Et c'était un soulagement énorme parce que jusque-là, moi, j'étais complètement prisonnière de mon mental.
C'est-à-dire prisonnière de son mental, c'est intéressant.
Oui,
C'est-à-dire...
c'est intéressant. C'est-à-dire, c'était les idées que je me faisais des choses qui guidaient mes choix. Alors, c'est le cas de la plupart d'entre nous.
C'est-à-dire des
Et
croyances?
pour le...
Elle
Oui, des
rigole,
croyances.
Katia, parce que c'est un terme qu'elle aime
Non, mais
nous souffler.
notre vision du monde, et nos pensées, Caro. Donc, en fait, quand on parle effectivement de prisonnier de son mental, c'est qu'on est tous, tu es prisonnière de ton
Mais
mental.
je le sais.
Et on est tous prisonniers de notre mental. Et effectivement, arriver à trouver le moyen de lâcher son mental pour être ici et maintenant, je crois qu'on aimerait tous, effectivement, pouvoir vivre ça.
Voilà, c'est ça, c'est un nouveau point de vue sur le monde où on découvre, bon, ça prend un peu de temps, mais la capacité d'observer le mental au lieu d'être à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle le détachement ou c'est ce qu'on appelle faire un pas en arrière par rapport au contenu du mental. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que là, tout de suite, par exemple, au moment où on parle, on n'a aucune idée de ce à quoi on va penser dans 2 minutes. On n'a aucune idée de la provenance des pensées qui apparaissent d'un instant à l'autre, ni des émotions. On n'a aucune maîtrise dessus, donc c'est vraiment des surgissements spontanés. Et pourtant, la plupart du temps, on pense que bah, ça, ces pensées, c'est moi. Ça constitue ma personnalité, c'est quelque chose de stable et de fixe. Alors qu'en méditation, on observe que c'est très évanescent. Et ce qu'on a de plus stable, par contre, c'est le corps, la respiration, les choses qui sont complètement connectées au moment présent,
Et alors
les sens, etc.
quand tu parles de respiration, parce que tu donnes des conseils, hein, je ne l'ai pas dit, mais tu alimentes depuis des années le site internet Daily Zen, qui est un blog où tu donnes des conseils et où on peut retrouver d'ailleurs tes podcasts, toutes tes activités autour du bouddhisme. Et tu parles justement des techniques de respiration abdominale, justement par rapport à la pratique de la méditation zen, c'est vraiment vers ça. Alors en plus, tu es professeur de chant, hein, et ça aide beaucoup.
Oui, ça aide beaucoup cette respiration, parce que si la respiration est haute, c'est-à-dire placée au niveau de la poitrine, comme c'est aussi le siège des émotions, du stress, etc., si on respire à l'endroit où les émotions s'agitent, ça fait comme un trop-plein. Et donc réinstaller une respiration ventrale, abdominale, s'autoriser à laisser le ventre se gonfler, hein, c'est vraiment trouver une stabilité, une vraie force intérieure. Et ça va nous aider à lâcher le mental.
Ce qui m'intéressait aussi, alors vous ne le voyez pas, hein, mais en tant que nonne, lorsque tu as été ordonnée en 2003, ordonnée nonne en 2003, tu t'es rasé la tête. Et encore aujourd'hui, tu as donc les cheveux rasés. Et dans les propos et dans les différentes interviews que tu as données, tu parles justement du fait de raser tes cheveux comme un lâcher des attachements et justement. Le fait d'être que la vie ne, enfin, se résume à l'essentiel à travers ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive à se sentir libre, justement, à travers enfin, le fait de se raser les cheveux et voilà.
Alors c'est un rituel hein, qu'on fait
Oui.
chaque semaine, chacun le fait pour soi, et à chaque fois c'est un peu vraiment, on rafraîchit tout, c'est, comment je pourrais le dire, il y a un côté libération, il y a un côté recommencer à zéro. Une forme de renouveau chaque semaine. Symboliquement, c'est aussi on fait attention, ça nous invite à faire attention à pas être dépendant ou à moins, du moins, de progresser vers lâcher le regard de l'autre. Donc, il y a tout ça. Les attachements qu'on peut avoir au niveau de la chevelure sont très divers. C'est pas un renoncement ou c'est pas tragique ou c'est pas difficile, hein. Moi, j'ai toujours adoré faire ça. Et au contraire, c'est vraiment rafraîchissant.
C'est la différence du choix, surtout.
C'est un choix, oui, voilà.
Alors, ce qui nous intéresse justement, alors on va pas dire à nos éditeurs de se raser la tête, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment finalement, qu'est-ce qui est source d'épanouissement? Parce que tu l'as dit, on peut pendant ce confinement faire un peu le parallèle entre ce que tu vis et ce qui nous est imposé aujourd'hui. Alors c'est certes une grande nuance, mais ça peut aussi être une réelle opportunité d'apprendre et de le vivre bien. Donc qu'est-ce qui est source d'épanouissement quand on est privé, quand on revient à une vie beaucoup plus simple, sans consommation, sans vie sociable, sans plaisir, on va dire, futile? Quelles sont les sources d'épanouissement?
Bah, ce qu'on peut retrouver, c'est le sens du temps qui passe. Alors souvent dans nos vies modernes, on est vraiment pris par beaucoup, beaucoup d'activités qui se succèdent à très grande vitesse et générateurs de stress pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Et là, peut-être pour certaines personnes qui sont confinées seules, hein, qui n'ont pas à s'occuper des enfants ou qui n'ont pas continué leurs activités en télétravail, mais il y a... peut-être plus de temps pour goûter le passage du temps, pour profiter de plus de moments libres. En général, on a tendance à remplir les moments
espaces,
libres par des activités, voilà. Par les écrans beaucoup, le téléphone, par tout ce que nous fournit la société de nos jours. Et à force, on pourrait dire que mentalement, ça crée un trop-plein. Je constate chez beaucoup de personnes maintenant l'incapacité à ne rien faire. Alors peut-être
et nos enfants aussi.
S'accorder, et chez les enfants également, ouais. Et peut-être que s'accorder comme ça des plages de 5 minutes où on fait rien, mais vraiment rien, pas, comment dire, même pas une méditation, juste être là. Pour sentir que
faire des
y a
pauses.
La vie qui est là.
Alors justement, c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, au-delà des sources d'épanouissement, c'est quelles sont en fait comment démarrer. Parce que quand on t'entend dire ça, ça nous paraît extrêmement simple. Or, on sait à quel point stopper le temps, prendre un temps sans aucune stimulation, etc. Donc, comment finalement démarrer progressivement, comme on pourrait démarrer la méditation, mais comment finalement profiter de cette période-là? Quels conseils tu pourrais nous donner? Et quel est, d'après toi, le rythme idéal pour, et à quel moment et quoi se dire pour être motivé de pouvoir le faire?
Oui, il y a pas mal de gens maintenant qui créent ce qu'on appelle les morning routines, hein, les petites routines matinales.
Katia sourit parce que
je suis une adepte
depuis
6 mois.
Ah, voilà. Et ça, c'est souvent des moments préservés où voilà, il y a du calme dans la maison, il n'y a personne n'est levé. Pour commencer le retour à soi, en fait, ce qui est difficile, c'est de se retrouver dans le vide. On ne sait pas quoi faire, etc. Donc, on pourrait commencer par un exercice qui est tout simple, qui est de se concentrer sur la pointe du nez et compter ses respirations. C'est-à-dire, quand j'inspire, je compte 1, quand j'expire, je compte 1, quand j'inspire, je compte 2, quand j'expire, je compte 2, etc. jusqu'à 10. Si vous maintenez comme ça l'attention en cédant des chiffres pour canaliser le mental, ça va créer un focus. Donc on a une tâche simple à réaliser, on concentre le mental et on développe comme ça une capacité de concentration. Or, de nos jours, on est vraiment, et de plus en plus, du fait des outils numériques notamment, hein, dans une société de distraction où en fait notre mental fuse dans tous les sens. Et réapprendre la concentration, le focus sur un point, ça va créer intérieurement un vrai soulagement et une vraie détente.
Alors on va faire le parallèle, justement, là on se parle d'être dans le silence et je vais laisser Caroline en parler, mais moi j'ai juste avant ça, en fait, le lien avec le silence, c'est quels sont les bénéfices, c'est-à-dire que moi j'entends et je vis le Morning Miracle et j'en vois les bénéfices, mais finalement...
Mais qu'est-ce que t'es bavarde ?
Mais nos auditeurs, qu'est-ce qui, aujourd'hui, quels sont les bénéfices dont tu pourrais vanter, enfin quels sont les bénéfices vraiment, qui pourraient motiver les gens à le faire ?
Bah, le silence, ça mène au calme. Hein. Alors, ça va pas être un silence idéal, comment dire, dépouillé de tout bruit. Dans notre silence, il peut y avoir le bruit de la circulation, il peut y avoir pas mal d'éléments autour de nous qui demeurent perceptibles. Mais c'est en tout cas le fait de réentendre à nouveau notre environnement sonore, ça nous connecte au moment présent. Et le moment présent, c'est l'endroit où on trouve une détente intérieure, une pause, où on se retrouve soi-même, parce que se retrouver soi-même, c'est pas mental, c'est vraiment à travers les sensations et le corps.
Alors, ce qui est intéressant, Kankyo, c'est que tu as écrit un livre qui s'appelle « Ma cure de silence et si on essayait le calme », donc qui est évidemment toujours en vente hein, et qui donne aussi les clés et les conseils pour faire cette cure de silence. Mais on s'est intéressé, alors sans rentrer dans les détails, hein, tu l'as écrit bien avant le début de l'épidémie qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, dans l'histoire, il se trouve que les cures de silence étaient préconisées aussi pour soigner ou aider les malades à aller mieux dans des périodes d'épidémie, notamment l'épidémie de la tuberculose. Mais aussi, on retrouve dans le livre de la peste d'Albert Camus une référence très forte à ça, où il passe par une cure de silence pour pendant cette terrible épidémie. Est-ce que tu penses que c'est cette cure de silence que tu préconises depuis des années, hein, évidemment, c'est décorrélé avec cette épidémie, peut aider à aller mieux?
Bah, j'en suis absolument convaincue. Quand j'étais, je suis allée il y a quelques années en Inde faire une cure ayurvédique qui s'appelle le Panchakarma. C'est un ancien savoir de l'Inde au niveau de la médecine. Et donc c'était 3 semaines où on reçoit une alimentation spécifique, des soins corporels, des potions à boire, mais aussi il y avait une semaine complète où il était recommandé de rester complètement dans le silence et d'arrêter avec tous les outils numériques, même avec la lecture, etc., de se confronter là au vide. Et c'est à ce moment-là que le temps ralentit et que le cerveau, qui est en général, il est en surchauffe sans qu'on s'en rende compte, le cerveau peut se détendre. Moi, ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que j'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus intelligents. Ils ont des sources de connaissances inouïes qu'on peut rechercher sur le net ou un peu partout. Il y a notre cerveau marche de plus en plus rapidement, analyse, etc. Mais à force, ça le fatigue. On consomme beaucoup d'énergie avec ça. Donc peut-être qu'on pourrait aussi le mettre, lui, au repos.
Pour être une véritable source d'énergie, puisque ce qu'on dit, c'est qu'en fait, le silence est une source d'énergie, puisque à condition de l'apprivoiser, en fait, le fait de se contraindre au silence, on libère aussi l'accès, comme tu disais, à une autre partie de notre cerveau, de l'intelligence, à savoir les intuitions, les émotions, capacité à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on explore, en fait, dans le silence, des choses de manière beaucoup plus dépouillée. Et c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui qui est vraiment très visuelle et très stimulante.
Et en même temps, Kankyo, ce qui est intéressant, c'est que tu prônes ces cures-là, le fait, pardon, la méditation et tout ce qui est fait qu'on se recentre en fait sur l'instant présent. Et tu es toi-même extrêmement connecté puisque tu utilises les outils actuels. Hein, on l'a dit, hein, que ce soit le blog à travers Daily Zen
ou
les réseaux sociaux évidemment, et puis les outils comme les podcasts. Donc ça veut dire que en même temps, tu arrives à te recentrer et à travailler cette méditation tout en utilisant et en partageant au plus grand nombre ta spiritualité avec les outils actuels.
Et donc c'est une question d'équilibre. En gros, finalement, c'est quoi le pourcentage, c'est-à-dire que tu passes combien de temps dans le silence et combien de temps stimulé?
Alors en général, je travaille sur l'ordinateur les matins et pendant 2-3 heures comme ça. Et puis là maintenant pour toutes les activités, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, j'ai pas mal de gens qui m'aident. Alors
du coup, tu délègues.
Je délègue voilà pour les posts et tout ça. Et l'après-midi, par contre, c'est comme j'ai créé une ferme, hein, une ferme avec un refuge pour animaux, etc. C'est beaucoup de travail, donc je suis avec eux. Donc je suis sur le tracteur, je fais le fumier, je me connecte aux arbres, et là, c'est quand même super.
Alors, une dernière question un peu coquine quand même. Et si je te proposais d'enfreindre les règles et de choisir un plaisir que tu veux, mais alors n'importe lequel, ce serait lequel?
Oh ben, je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'interdits, alors.
C'est ça qui est extraordinaire. Parce que nous, tu nous dis ça aujourd'hui, on en a des idées, on en a à l'appel. Et c'est ça, je trouvais intéressant ce parallèle et que justement, quand je te pose cette question-là.
Oui, alors, j'ai vraiment pas d'idée parce que, en fait, ma vie est très chouette. Donc, elle est simple, hein, mais elle est complètement satisfaisante. Du coup, il faudrait que je réfléchisse un peu.
Mais t'as pas besoin. J'aime beaucoup cette réponse parce que elle nous donne une belle lecture et un beau message qui est que finalement on peut très bien être heureux avec une vie beaucoup plus simple, moins de consommation, avec finalement prendre le temps tel qu'il est et d'équilibrer sa vie. Donc c'est un beau message que tu nous fais passer et on te remercie. On arrive à la fin. Caroline, tu voulais encore poser une question peut-être?
Non, enfin, allez, si. Kankyo, on n'a pas dit ton prénom de naissance, qui est Isabelle. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, tu as été ordonnée nonne en 2003 et tu as donc changé par un prénom bouddhiste. Le terme Kankyo veut dire observation, miroir cosmique. Quelle est ton observation aujourd'hui sur le monde,
de ce qui se passe?
En fait, je suis partagée, comment dire, je trouve que c'est très profitable ce qui se passe pour la nature, il y a beaucoup moins de pollution aérienne ou des choses comme ça, il y a des aspects positifs, mais je suis très inquiète sinon par rapport à la crise économique qui va se profiler et surtout par les inégalités qui le fossé entre les plus riches et les plus pauvres qui est en train de se creuser, les étudiants qui ont du mal à trouver de quoi manger au quotidien, etc. Ça m'inquiète et ça me donne envie de d'entreprendre des choses pour aider à ce niveau-là.
Ça développe l'entraide. Merci beaucoup. Encore un beau message pour finir. Merci beaucoup. On espère qu'après ce confinement, tu pourras venir nous offrir un moment de méditation en pleine conscience et de spiritualité avec nous parce qu'on a un très beau souvenir de ce moment-là avec toi.
Et alors, sache quand même que ma première rencontre avec toi, même si toi, tu étais conférencière et tu intervenais dans un TEDx, eh bien, tu as donné un conseil en disant qu'il fallait, au moment du réveil, le matin, juste se déconnecter, poser une intention et puis être dans l'instant présent pendant quelques minutes. Eh bien, sache que depuis, je le fais quasiment tous les matins. Donc, tu vois, tu ne le savais pas. Mais en tout cas, ces conseils-là m'ont resté et je vous assure que ça permet quand même de... Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas trop dans la spiritualité, dans la méditation, parce que je n'arrive pas à me poser. Mais ça, tu vois, eh bien, ça
comme
me suit encore aujourd'hui.
Dire, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, c'est accessible à tout le monde.
Ah bah, clairement.
Oui.
Et ça aide.
Je suis ravie de l'apprendre. En
fait. Merci beaucoup, Kankyo. Et à très bientôt. Prends bien soin de toi.
À très bientôt. Au revoir.
C'est la fin de ce podcast. On se retrouve très bientôt. On se regarde, Caro.
J'ai plus envie de te parler. Ça y est.
Nous allons faire une 5 minutes de silence à partir de maintenant.
Ça me paraît une éternité. Toi et moi dans une pièce, mais en distanciation, s'il te plaît.
En tous les cas, on a passé, je ne sais pas vous, mais un très beau moment, plein de messages forts et ça nous a donné envie d'essayer, de tester, de faire des coupures même pendant la journée, de prendre le temps, de profiter aussi de cette période-là pour expérimenter de nouvelles choses. C'était un joli moment.
Partagé.
À très bientôt, c'était les Grandes Girls. Top Music.